Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge, Olivier Aymon.
De tout temps, les hommes ont observé le ciel, découvrant, au fur et à mesure de l'amélioration des instruments à leur disposition, les planètes et autres corps célestes de notre système solaire. Des observations qui se poursuivent aujourd'hui, depuis le sol, mais aussi grâce à des sondes envoyées au plus près de ces astres pour nous en révéler l'aspect, l'histoire ou la composition.
Ce qu'on a fait au début, parce que c'était le plus facile, c'était d'envoyer des sondes spatiales qui vont s'approcher d'une planète, mais ne pas s'arrêter. L'étape suivante, si on y arrive, c'est de se freiner en arrivant, et cette fois-ci d'essayer d'être capturé par le champ gravitationnel de la planète ou du monde pour pouvoir se mettre en orbite. Alors là, ça change tout.
François Forget est planétologue, directeur de recherche au CNRS, et avec lui, on débute par un peu d'histoire.
Oui, la grande date, c'est toujours Galilée. Galileo Galilei, qui le premier utilise une longue vue pour regarder les autres planètes. Et pour ce qui concerne au-delà de Mars, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Mercure, c'était les planètes connues à l'époque. Et en fait, il a regardé surtout Jupiter. Et là, il a été sidéré, puisque à côté de Jupiter, qui tout d'un coup, il s'est rendu compte, était un petit disque, il devinait peut-être les bandes nuageuses, mais surtout, il a vu les lunes de Jupiter. Donc, vous connaissez Io, Europe, Ganymède, Callisto. Et il s'est rendu compte que ces petites lunes tournaient autour de Jupiter. C'était extrêmement frappant. Il voyait un mini-système. Pour lui, c'était vraiment un choc. Et c'est resté depuis. On les appelle les satellites galiléens. Et donc, ça, c'est, on peut dire, le début retentissant de l'exploration du système solaire. Avec la longue vue, ça changeait déjà tout, parce qu'avant, effectivement, les planètes, ce n'était rien d'autre que des étoiles, mais qui se déplaçaient par rapport aux autres étoiles. Le planète, ça veut dire astre errant. C'était encore vraiment de l'astrologie, presque. On n'avait pas une grande notion de ce que ça pouvait être. Donc tout commence avec Galilée, puis derrière, des télescopes qui ont été améliorés sans cesse, avec une première étape célèbre, un grand personnage, William Herschel, c'est un Anglais, qui était musicien. Et son hobby, c'était l'astronomie. Donc il a construit des gros télescopes, et il est en particulier connu pour avoir découvert Uranus, donc la première planète qu'on ne connaissait pas. Puis ensuite, on a découvert Neptune, et puis peu à peu, on a caractérisé ces autres mondes. Si on peut parler quand même de ce que c'était que l'exploration avec ces télescopes, finalement, moi je dirais, c'est que ça ne suffisait pas. Alors évidemment, on a vu plein de choses, mais ça a mené à plein de petites erreurs. Mes exemples favoris, c'est plutôt pour Mars et Vénus, mais si on résume très vite, tout ce qu'on a pu déduire à l'époque en observant ce qui se passait sur Mars, ce qui se passait sur Vénus, c'était complètement faux. Il a vraiment fallu l'exploration spatiale, en fait, pour découvrir ce qu'étaient ces mondes-là en particulier, puis tout ce qui se passait au-delà de Mars, à partir de Jupiter. Mais on peut ajouter aussi que depuis, l'astronomie s'est rattrapée, l'astronomie télescopique, avec des télescopes, des observatoires sur Terre, et là, avec d'autres méthodes modernes, là, on arrive à faire de la vraie science et de la vraie exploration.
Parce qu'on continue à observer le ciel ou l'espace depuis la Terre, aujourd'hui, avec de vrais télescopes. Il y en a encore en construction en ce moment au Chili. Toutes les grandes puissances, on va dire, scientifiques, essaient d'avoir leur instrument, en travaillant ensemble pour certaines, et on continue d'observer depuis la Terre. On n'est pas obligé d'aller dans l'espace, en tout cas en première intention, pour observer.
Il y a deux raisons à ça. D'abord, il y a certains corps, certaines planètes par exemple, qui ont été peu étudiées. Il n'y a pas de sonde spatiale autour. Des mondes comme Uranus, Neptune, et puis pendant longtemps, c'était le cas de Pluton, avaient été à peine survolés par des sondes spatiales. Alors Uranus, Neptune, c'est dans les années 80. Pluton, c'est plus récent. Pluton n'avait jamais été observé de près jusqu'en 2015. Donc pour tous ces mondes, et puis les nombreux petits mondes dans les ceintures d'astéroïdes, les mondes au-delà de Neptune, les petits corps qu'on appelle les objets transneptuniens, qui sont nombreux, on n'a pas de sonde spatiale, tout simplement. Donc là, avec les télescopes, on peut vraiment les étudier. Et avec les méthodes modernes, finalement, on apprend plus, non pas en faisant des images, parce que ça reste limité, c'est très loin, c'est petit, mais en faisant des méthodes un peu plus modernes qui sont basées sur la spectroscopie. Et là, on utilise toutes sortes d'astuces. Par exemple, une astuce formidable qu'on utilise beaucoup et qui a été clé pour la compréhension de Pluton avant qu'on la survole, c'est par exemple le fait que quand on a la chance que depuis la Terre, une étoile passe derrière un monde, par exemple Pluton, eh bien cette étoile passe à travers l'atmosphère, disparaît derrière la planète, puis reparaît de l'autre côté. Et enfin, en réalité, c'est la Terre qui se déplace le plus vite dans cet alignement. Eh bien, quand on voit ce coucher d'étoiles puis relevé d'étoiles, eh bien, on peut mesurer les propriétés de l'atmosphère. C'est très efficace. Et c'est ainsi que, Avec cette méthode-là, et puis des méthodes de spectroscopie, c'est-à-dire vraiment analyser, comme on fait en laboratoire partout, tout le temps en chimie, si vous voulez, les différents traits spectrales qui sont émises. Bon, en combinant tout ça, on arrivait quand même à avoir une idée assez détaillée de la physique, de la nature, de l'atmosphère de Pluton, de sa surface, sans l'avoir jamais vue. Là, on avait quand même réussi à caractériser pas trop mal ce qui se passait, puis on a une confirmation visuelle de ce à quoi ça ressemblait.
Mais il n'y a quand même rien de mieux que d'y envoyer une sonde, par exemple sur Pluton, la sonde New Horizons 2015. Vous avez travaillé sur ce projet. Est-ce que par rapport à ce que vous disiez, ça a confirmé ce qu'on avait observé depuis la Terre? Ou est-ce qu'à chaque fois, il y a des surprises, comme on en aura peut-être, on fait le lien avec Galilée dont vous parliez, avec cette sonde JUICE qui est partie vers Jupiter et qui arrivera dans une petite dizaine d'années?
Alors si on prend l'exemple de Pluton, qui est vraiment un exemple typique, hein, vraiment, tout ce qu'on avait déduit depuis la Terre, avec ses différentes méthodes d'astrophysique moderne, je trouve, a été relativement bien confirmé. Par contre, quand la sonde a survolé Pluton, on a découvert tout d'un coup, visuellement, avec nos yeux, un monde détaillé où on a vu des montagnes magnifiques sculptées par des glaciers d'azote, des grandes dunes de méthane, une atmosphère riche en brume, éclairée par le soleil, notamment quand il se couche, etc. C'était magnifique, scientifiquement passionnant, et c'était beaucoup, beaucoup plus et beaucoup plus surprenant que ce qu'on avait pu obtenir avant. Mais ce qu'on avait obtenu avant, c'était pas faux.
Alors, on va revenir sur l'exploration avec les sondes. Mais il y a une étape intermédiaire entre l'observation au sol par les télescopes et l'envoi de sondes. Ce sont les télescopes spatiaux. Il y en a un qui est devenu célèbre, c'est le James Webb, qui est parti à 1,5 million de kilomètres de la Terre pour observer le ciel. Ça marque vraiment une étape intermédiaire ou c'est une utilisation un peu différente?
Non, ces télescopes spatiaux qui sont quand même malgré tout, entre guillemets, dans la banlieue de la Terre, même le James Webb qui est pourtant assez loin, oui, on les utilise comme on utilise des gros télescopes terrestres. La grande différence, c'est que on n'a pas du tout de problème avec la turbulence dans l'atmosphère qui brouille un peu parfois les images. On a accès, à nouveau c'est scientifique, à des longueurs d'onde, à la lumière qui n'est pas filtrée par l'atmosphère. Nous, on est habitué que l'atmosphère soit transparente parce que nos yeux sont adaptés. Mais il y a beaucoup d'autres images qu'on peut obtenir dans ce qu'on appelle le proche infrarouge, ultraviolet, et qu'on ne peut pas du tout obtenir depuis la Terre. Et or, ce sont des gammes du spectre visuel possible qui sont extrêmement riches en informations. Et donc, de ce point de vue-là, le James Webb, c'est un super, super télescope. Donc, tout à coup, dès qu'on le braque vers quelque chose de nouveau, que ce soit une ancienne galaxie, une étoile, une nébuleuse proche, entre guillemets, dans notre galaxie, et puis surtout, donc, ce dont on parle aujourd'hui, les planètes, voire des exoplanètes, donc des planètes autour des autres étoiles, on a très, très vite des résultats révolutionnaires parce que c'est un peu comme si, tout simplement, vous aviez, une photo d'une région avec une résolution très faible, vous verriez vaguement des montagnes, d'un coup, hop, vous voyez les petits chemins, les forêts, les arbres individuellement, c'est à peu près la même chose. Mais ça reste quand même de l'observation télescopique qui est traitée comme on traite les observations obtenues depuis la Terre.
Donc la voie royale, en fait, finalement, après, c'est d'envoyer des sondes sur place. C'est d'envoyer des sondes, des instruments au plus près des objets qu'on essaye, ou des corps célestes qu'on essaie d'analyser ou de comprendre.
Absolument. Mais évidemment, même dans cette exploration spatiale qui a commencé au début des années 60, il y a des étapes. Ce qu'on a fait au début, c'était d'envoyer des sondes spatiales qui vont partir depuis la Terre et puis frôler ou s'approcher d'une planète, mais ne pas s'arrêter. Donc on va voir quelques heures d'observation et hop, la sonde va continuer. L'étape suivante, si on y arrive, c'est de se freiner en arrivant et cette fois-ci d'essayer d'être capturé par le champ gravitationnel de la planète ou du monde pour pouvoir se mettre en orbite. Alors là, ça change tout parce que tout à coup, on va pouvoir vraiment analyser ce qui va se passer. Alors pour ce qui concerne au-delà de Mars, donc à partir de Jupiter, il y a eu d'abord deux premières sondes qui étaient un peu pionnières, mais pas très scientifiques. Ces sondes s'appellent les sondes Pioneer, par définition, Pioneer 10 et 11. Ça n'a pas révolutionné notre connaissance de ces mondes-là. La grande révolution est venue de deux sondes légendaires, les sondes Voyager 1 et 2, qui cette fois-ci ont survolé Jupiter, Saturne, et puis pour Voyager 2, Uranus et Neptune. Et vraiment, c'est ça qui a apporté une révolution. Tout d'un coup, on a vu plein de photos. Pour donner un exemple, avant que Voyager survole Jupiter, les satellites galiléens, les petites lunes qui tournent autour de Jupiter, c'était en gros des petits points lumineux. On ne savait pas trop ce qu'il y avait là-dessus. On est encore dans les années 70, au moment du lancement. Et tout d'un coup, la sonde passe, photographie ces différents mondes. Et là, on a un choc incroyable, quoi. Vous avez Io, une planète couverte de volcans. On photographie des volcans en éruption. À côté, un monde s'appelle Europe, donc une planète océan, on dit maintenant, recouvert d'une épaisse couche de glace, mais on voit vraiment les morceaux, les radeaux de glace qui se déplacent à la surface, Ganymède, Callisto, bref. Tout d'un coup, en quelques jours, quelques heures, on découvre 4 nouveaux mondes. Extraordinaire. Et puis ça a continué derrière pour Saturne, puis Uranus avec toutes ces petites lunes et Neptune. Donc ça, c'est le survol. Et l'étape suivante, eh bien, ça va être de se mettre en orbite et donc, après ce premier reconnaissance, on a envoyé des sondes pour se mettre en orbite, par exemple de Jupiter, la sonde Galileo, plus récemment Juno. On a aussi lancé la sonde JUICE, la sonde européenne, là, il y a quelques mois, pour aller à nouveau explorer ce système. Même chose sur Saturne, on a envoyé une sonde extraordinaire qui s'appelle Cassini, qui s'est mise en orbite autour de Saturne, une mission américano-européenne, on va dire. Toujours est-il que donc, cette deuxième étape, c'est la mise en orbite autour des mondes. Alors pour l'instant, on l'a peu fait, hein, pour ce qui concerne au-delà de Mars. On l'a fait autour de Jupiter, on l'a évoqué, autour de Saturne. Et on n'attend qu'une chose, c'est une priorité maintenant pour nous, les planétologues, c'est de se mettre en orbite, bah, ne serait-ce qu'autour de Uranus, un jour autour de Neptune, pourquoi pas Pluton. Après cette étape de mise en orbite, eh bien, l'étape suivante, c'est de se poser à la surface des mondes. Alors, on l'a fait pas mal sur Mars et Vénus, ça, tout le monde le sait. Mais on l'a fait aussi, alors, par exemple, sur Jupiter, on a envoyé une sonde dans l'atmosphère de Jupiter qui est descendue. C'était la sonde Galileo, alors qui a pris des mesures. Alors, évidemment, sur Jupiter, il n'y a pas de surface. Donc, la sonde est descendue, la pression a augmenté, la température a augmenté. Puis, au bout d'un moment, on a perdu le contact. On ne sait pas ce qui lui est arrivé. C'est très, très mystérieux, l'intérieur d'une planète gazeuse géante comme cela. Néanmoins, on a obtenu plein de mesures très intéressantes. Et puis, pour ce qui concerne le système de Saturne, alors, on n'a pas encore envoyé de sonde dans l'atmosphère de Saturne elle-même. Par contre, ce que l'on a fait, c'est qu'on s'est posé à la surface d'une lune de Saturne qui s'appelle Titan, un monde fascinant. Hein, c'est une petite lune, d'accord, mais il y a une épaisse atmosphère d'azote, un peu comme sur Terre. Et puis, vous avez là des lacs, des rivières, il pleut du métal liquide. Mais ça ne change pas grand-chose parce qu'au final, vous avez des magnifiques canyons, des rivières. Et on a eu la grande chance, nous, Européens, de pouvoir y envoyer une sonde qui s'est posée à la surface, qui a pris des photos, qui a fait plein de mesures scientifiques, qui s'appelait Huygens. Et pour ce monde-là, qui est vraiment extraordinaire, on prépare une nouvelle mission. Et ça, on va dire que c'est l'étape suivante après se poser à la surface, c'est la mobilité. Sur Mars, tout le monde le connaît, c'est les robots à roulettes, les rovers. Sur Titan, bah, on s'est dit qu'on pourrait faire un rover, un robot à roulettes, mais avec une atmosphère aussi épaisse. La bonne méthode pour la même quantité d'énergie, c'est au lieu de mettre des roues, mettre des hélices. Et dans cette atmosphère très dense, froide, et puis une pression une fois et demie plus élevée que sur Terre, eh bien, on peut faire une espèce de module d'exploration qui pèse presque une tonne, mais avec 8 hélices, c'est pas de si grosse batterie, on peut se déplacer comme ça en volant. C'est un projet qui s'appelle Dragonfly, qui est en préparation donc à la NASA, mais avec une contribution française de certains collègues ici qui sont très impliqués. Et lancement dans quelques années, et puis l'exploration à partir de début des années 2030. Il y a un petit flou en ce moment sur la date d'arrivée de Dragonfly.
Quand on va visiter ces mondes, évidemment, on veut les connaître mieux. On a envie d'accroître nos connaissances pour ces mondes eux-mêmes, mais aussi par rapport à notre histoire à nous, par rapport à notre histoire dans le système solaire, l'histoire de la Terre. C'est ce que vous faites aussi en partie, en essayant d'adapter des modèles de fonctionnement, par exemple climatique, sur Terre, en se disant, est-ce que ce modèle, il va fonctionner, ou il fonctionne de la même manière sur une lune de Jupiter, sur une planète géante, sur différents corps. Donc, il y a ce travail, en fait, qui est à la fois très loin, et encore une fois, on revient vers nous.
Pourquoi on explore le système solaire ? À quoi ça sert ? La première motivation, il faut la reconnaître, c'est vraiment une motivation d'exploration, quoi. On ne sait pas ce qu'on va trouver, donc on va voir. On va voir, et puis ce faisant, on rencontre plein de petits laboratoires naturels qui nous permettent de tester notre compréhension de la physique un peu partout dans des conditions extrêmes, etc. Et l'un des intérêts de cette démarche, c'est mieux comprendre notre Terre. On peut faire de la volcanologie, la géologie. Et c'est vrai que dans mon cas, je suis plutôt un climatologue. On utilise l'atmosphère. Il se trouve que dans le système solaire, il y a 10 atmosphères en fonctionnement. Eh bien, à chaque fois, on apprend beaucoup de choses. On teste nos concepts. Ça prend plein d'aspects. Un des aspects les plus importants, c'est très bête, c'est le fait qu'il existe parfois des effets subtils dans notre système climatique, dans notre atmosphère, qui sont évidents ailleurs. Un exemple connu, c'est... Alors, c'est pas au-delà de Mars, mais Vénus, vous avez un effet
petit
de serre.
Entorse, mais c'est pas grave.
Vous avez un effet de serre énorme. Eh bien, bien sûr, ça aide à comprendre peut-être un peu l'effet de serre sur Terre. Mais ça, c'est un exemple un peu trop facile. Mais il y a plein d'exemples assez subtils qui sont riches d'enseignements. Et une manière d'acquérir cet enseignement de manière directe, c'est que ce que l'on fait, nous, avec notre équipe, c'est de prendre des modèles numériques de climat, donc des simulateurs sur ordinateur du climat terrestre, dont on se sert notamment pour essayer de comprendre le changement climatique sur Terre. Qu'est-ce qui va se passer dans 50 ans, dans 100 ans? Est-ce qu'il y aura de la sécheresse en Inde ou à Marseille? Ou au contraire, est-ce qu'il y aura des pluies diluviennes? Il y a un dérèglement climatique, qu'est-ce qui va se passer? C'est compliqué à faire. C'est vraiment des modèles. Ce que l'on fait, nous, c'est qu'on prend ces modèles qui sont basés sur des équations physiques assez universelles et on les adapte, on les teste sur les autres planètes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ça marche souvent assez bien.
On peut aller presque lire, entre guillemets, notre avenir climatique d'une certaine manière sur d'autres mondes. Et en même temps, ça permet d'affiner aussi nos simulations et donc ce qu'on peut imaginer comme avenir en fonction évidemment d'un certain nombre de critères.
De manière technique, pragmatique, ce que l'on fait surtout, c'est qu'on va voir des phénomènes physiques qui vont nous surprendre, nous obliger à développer des équations, des calculs, des modèles numériques. Et ensuite, cette connaissance-là auquel on n'avait pas pensé pour la Terre, va finalement trouver un intérêt sur Terre parfois, ou au moins nous élargir notre esprit, élargir nos concepts. La météorologie sur Terre, si vous réfléchissez bien, il faut comprendre, chez nous c'est vraiment géré par les dépressions, les anticyclones, vous allez sous les tropiques, tout le monde a entendu parler, les vents alizés. On trouve tout ça sur les autres planètes. Mais là, on est bien obligé d'élargir un peu notre compréhension de ce qu'est les dépressions et les anticyclones. Parce que là, ça se passe quand même un peu différemment, avec les mêmes origine scientifique, physique, des gradients de température, etc. Mais là, on teste ces concepts-là dans d'autres conditions et c'est vraiment riche d'enseignement.
On va sortir du système solaire, on va aller voir dans d'autres systèmes, avec d'autres planètes qui tournent autour d'étoiles, d'autres systèmes solaires, si on peut dire. Ce sont les exoplanètes. Et là aussi, il y a un vrai champ qui s'ouvre aujourd'hui d'exploration et d'accumulation de connaissances, parce que c'est un livre qui commence à peine à s'ouvrir, en fait.
Alors, en fait, depuis 1995, on a découvert la première planète autour d'une autre étoile, une exoplanète, eh bien on en a découvert plein d'autres. Et ça, c'était une révolution scientifique. Cette première révolution scientifique consiste en particulier à démontrer que, d'abord, il y a des planètes autour de la plupart des étoiles, on n'en était pas certain. Et puis surtout, elle a révélé que le système solaire, tel qu'il est, avec ses petites planètes rocheuses à l'intérieur, ses planètes géantes au-delà, etc., est tout à fait atypique. Et on a découvert, donc, révolution, toutes sortes de géométries, d'architectures, de systèmes autour des autres étoiles. Et ça, c'est une première révolution vraiment en cours. La deuxième révolution, qui n'est qu'à son début, c'est effectivement la caractérisation de nouveaux mondes, de nouveaux environnements, un peu comme on a fait dans le système solaire. L'idée, c'est que grâce à des nouveaux télescopes, notamment comme le James Webb Space Telescope et puis une nouvelle génération qu'on est en train de développer sur Terre et pour l'espace, eh bien, on peut caractériser les atmosphères. Actuellement, dans le système solaire, nous connaissons 10 atmosphères différentes et on pense que d'ici quelques années, on va pouvoir caractériser des dizaines d'autres atmosphères autour d'autres étoiles. On va vraiment pouvoir mieux comprendre ce qui fait que telle atmosphère va se former dans telles conditions, pourquoi sur Terre on a une atmosphère avec de l'azote, etc. etc. Et ça, on a besoin de le comprendre. Alors, on a besoin de le comprendre toujours dans cet esprit de planétologie comparée. Et puis, bien sûr, dans le cas particulier des exoplanètes, on a en tête l'idée de savoir si la Terre, le système solaire, est exceptionnel. Que sommes-nous seuls dans l'univers, tout simplement, cette énorme question tarte à la crème, qui est assez scientifique. Elle est scientifique non pas parce que on se pose la question de savoir si les pyramides d'Égypte ont été construites par des extraterrestres. C'est pas ça qu'on étudie. On mène l'enquête sur le fait de savoir si il pourrait y avoir de la vie ailleurs. Évidemment, une première manière d'explorer ça, c'est de la rechercher via ce qu'on appelle des biosignatures. Si, avec beaucoup de chance, on arrive à détecter une atmosphère autour d'une autre étoile qui porterait la signature d'une activité biologique, quelque chose de très étonnant, ce sera dur à confirmer. OK, on aurait tout de suite un indice très fort. Mais en attendant, on peut mener l'enquête sur deux plans. Le premier, c'est de savoir si le fait, une planète comme la Terre, qui se caractérise par le fait qu'elle a été couverte d'océans, d'eau liquide, propice à la vie telle qu'on peut la connaître ou on peut l'imaginer, depuis 4 milliards d'années. Est-ce que ça, c'est courant ailleurs? Est-ce qu'il y a d'autres mondes où il y a des océans? On va pouvoir l'explorer grâce à nos nouveaux télescopes à venir. C'est pas facile, hein. On va d'abord commencer par explorer les atmosphères. Et puis l'autre enquête, et là, pour le coup, je vais revenir dans le système solaire, c'est de savoir, une fois qu'on a de l'eau liquide, des océans sur un autre monde, est-ce que la vie démarre? Ça, c'est une énorme question, on n'en a pas la moindre idée. On n'a pas la moindre idée actuellement de comment on passe du non-vivant au vivant. La réponse à cette question, je ne pense pas qu'on l'aura sur les autres planètes, mais on l'aura plutôt dans le système solaire. Et en particulier, si on va explorer d'autres mondes où il y a de l'eau liquide, c'est le cas des lunes de Jupiter comme Europe ou des lunes de Saturne comme Encelade, vous avez sous la surface des océans d'eau liquide, on n'a qu'une envie, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. À nouveau, on a là un laboratoire naturel extraordinaire, de l'eau liquide, de l'énergie, de la chimie. Est-ce que quelque chose se passe? Est-ce qu'une chimie un peu biotique démarre? Cette enquête-là, on pourra la faire dans le système solaire.
C'était Mars, la nouvelle odyssée, au-delà de la planète rouge. Un podcast original France Info en partenariat avec la Cité de l'Espace à Toulouse.